Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Jules Verne. Ce sont 62 romans d'aventure écrits en près d'un demi-siècle. Des livres qui ont connu un tel succès international que seule la Bible peut leur être comparée en termes de tirage. On lit Jules Verne dans le monde entier. Le capitaine Nemo, héros de 20 000 lieues sous les mers, apparaît aussi bien dans des films que dans des chansons, des bandes dessinées, des dessins animés. Reste que Jules Verne, l'homme, nous est assez peu connu. Comment est-il devenu cet écrivain visionnaire qui enchanta la jeunesse de générations de lecteurs? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Première partie, rêveries et chimères. En ce printemps 1836, le petit Jules Verne, 8 ans, assis près de la fenêtre du grand salon, scrute attentivement le paysage qui s'offre à son regard, noyé dans la touffeur de l'été. Depuis l'appartement de ses parents, situé à l'embouchure de l'Erdre affluent de la Loire, il a tout loisir de contempler les voiliers qui vont et viennent en grand nombre, certains faisant escale ici à Nantes, avant de repartir pour des contrées lointaines. Il rêve. Aussi loin que remontent ses souvenirs, ils exhalent le parfum de l'océan et de cet horizon sans terre ni habitation qui est comme la patrie de tous les songes, de toutes les aspirations, de toutes les espérances. Autour de lui, d'ailleurs, tout invite au voyage. L'immeuble où habite sa famille est situé sur un quai baptisé Quai Jean Bar, fameux corsaire, héros des mers comme Surcouf. Un petit pont de bois permet de passer d'une rive à l'autre de l'Erdre. Sur toute l'étendue de la Grève, protégée par l'ombrage de grands ormes, on débarque chaque jour les cargaisons des navires marchands. Les marins se hêlent d'un bord à l'autre, on affale les voiles qui claquent au vent, les chevaux de trait piaffent et bottent la terre battue du quai, tandis que mouettes, goélands et puffins virevoltent au-dessus des mâtures. Jules Verne est un enfant timide. Pourtant, derrière son apparente réserve, il se sent déjà l'âme d'un conquérant. Il a en mémoire la canonnade qui résonna dans les rues de Nantes lors des journées de 1830. Nantes, comme Paris, connut alors une révolution réprimée dans le sang. Certes, il n'avait alors que 2 ans, et pourtant, le tumulte des émeutes lui a fait forte impression. « Allons, embarquer ne doit pas être si terrible pour qui a déjà entendu tonner le canon !» C'est ce souvenir perdu dans les limbes de la petite enfance qui va lui donner le courage, un beau jour de juillet 1836, de monter clandestinement à bord d'un navire.
Un jour, je me hasardais et j'escaladais les bastingages d'un trois-mâts dont le gardien faisait son quart dans une buvette du voisinage. Me voilà sur le pont. Ma main saisit une drisse et la fait glisser dans sa poulie. Quelle joie ! Les panneaux de la cale sont ouverts. Je me penche sur cet abîme. Les odeurs fortes qui s'en dégagent me montent à la tête. Ces odeurs où l'âcre émanation du goudron se mélange au parfum des épices. Je me relève, je reviens vers la dunette, j'y entre. Elle est remplie de senteurs marines qui lui font comme une atmosphère d'océan. Voilà le carré avec sa table de roulis qui ne roule pas, hélas. Sur les eaux tranquilles du port, voilà les cabines aux cloisons craquantes où j'aurais voulu dormir des nuits entières. Puis c'est la chambre du capitaine, ce maître après Dieu. Un bien autre personnage, à mon sens, que n'importe quel ministre du roi ou lieutenant général du royaume. Je sors, je monte sur la dunette et là, j'ai l'audace d'imprimer un quart de tour à la roue du gouvernail. Il me semble que le navire va s'éloigner du quai, que ses amarres vont se larguer, ses mâts se couvrir de toile et c'est moi, timonier de 8 ans, qui vais le conduire en mer.
Pour l'heure, l'aventure maritime du petit Jules Verne s'arrête là. Avec son frère cadet qui partage la même fascination pour la mer, il se contente de longues promenades dans la campagne nantaise, voguant, selon son expression, à travers les prairies et les bois. La campagne est son océan, et les arbres ces mâts, à la cime desquels ils passent des heures entières à scruter l'horizon. L'Amérique est le pays qui le fait rêver entre tous. De nombreux navires venus du Nouveau Monde accostent à Nantes. Il les reconnaît à leurs coques élancées et leur impressionnante mâture. Un pays capable de construire de tels vaisseaux est forcément habité par un peuple supérieur. Mais déjà la Loire ne lui suffit pas. Il veut connaître le Mississippi, le Saint-Laurent, l'Hudson. Patiemment, il apprend par cœur tous les termes de la navigation. Il dévore les romans maritimes de Fenimore Cooper. Depuis sa chambre, par l'oculaire d'une vieille longue-vue, il observe le passage des bateaux. Son imagination d'enfant élabore déjà inlassablement des projets d'aventure vers d'inattingibles lointains. Il constitue lui-même en songe ses équipages. Sur le port de Nantes se trouve un loueur de bateaux. Avec la complicité de son frère, Jules prend l'habitude de s'échapper à la faveur de la marée descendante sur ces embarcations qui prennent l'eau de partout et dont la voilure précaire ne permet pas de parer aux caprices parfois violents des intempéries. Jusqu'au jour où, fatalement, son frêle esquif coule à pic. Jules a tout juste le temps de sauter à l'eau et de rejoindre un îlot voisin couvert de roseaux. Il y reste coincé quelques heures. Il n'a pas peur. Et comme il a lu 100 fois Robinson Crusoe, il songe même à construire une cabane, à se confectionner une canne à pêche de roseaux, à prendre une épine pour faire un hameçon. Malheureusement, l'aventure s'arrête là, car ici, il n'y a aucun moyen de faire du feu et il n'y a ni épine providentielle, ni le moindre coquillage à manger. Enfin, la marée redescend. Le garçonnet, toujours ivre de sa rêverie, regagne à pied avec de l'eau jusqu'aux chevilles ce continent salutaire qui n'est en réalité que la rive droite de la Loire. Jules a-t-il vraiment tenté à l'âge de 8 ans de s'embarquer clandestinement pour les Indes à bord d'un bâtiment? C'est en tout cas ce que prétend l'écrivaine Marguerite Allotte de La Fuye, sa petite nièce, dans la biographie qu'elle a consacrée à son illustre aïeul. Cet épisode s'inscrit dans une série de légendes évidemment très séduisantes, mais totalement fausses. Hélas, elles ont été colportées suffisamment longtemps pour devenir indissociables de la vie de Jules Verne dans l'esprit de certains. Quoi qu'il en soit, Jules Verne sait dès l'âge de 10 ans ce que sera sa vie. Il parcourra les mers. À l'école, c'est un élève sans histoire. Il a de bons résultats, notamment en géographie, où il obtient régulièrement des premiers ou seconds prix. On loue son talent pour la cartographie et le dessin. Son père, qui exerce une fonction juridique, il est ce que l'on appelle un avoué, identifie rapidement les aspirations saugrenues de son fils. Sans pour autant s'opposer frontalement à lui, il souhaite le guider vers une profession plus réaliste et plus lucrative que celle d'un Robinson Crusoe. Qu'il commence par passer son bac et fasse des études de droit, et on en reparlera. Pour le bac, c'est chose faite à Rennes en 1846. Jules est gratifié d'une honorable mention à ses biens. Jules Verne a maintenant 18 ans, son bac en poche, mais il n'en oublie pas pour autant ses rêves de voyage. Comment les poursuivre sans déplaire à son père? Peut-être en se consacrant à la nouvelle passion qu'il sent naître en lui, à un nouveau projet plus compatible avec le projet paternel, devenir écrivain. Pour son père, c'est une nouvelle lubie qu'il ne va cependant pas contredire. Après tout, on peut être bon avocat et publier des vers. Mais le domaine de la littérature que souhaite explorer Jules consterne ses parents. L'aventurier repenti veut en effet écrire du théâtre. Jules s'essaie d'abord à la tragédie. C'est un désastre. Nul ne peut en lire une ligne sans bâiller. Plein d'espoir, il présente l'une de ses pièces au théâtre de marionnettes de Nantes, le Rikiki. Elle est refusée. Ses proches se moquent de lui. Parmi eux, cependant, sa cousine Caroline Tronson est la seule à l'encourager. Il n'en faut pas plus pour faire fondre son cœur. Il s'enflamme pour elle d'un amour passionnel. Il lui écrit des vers. Caroline a 1 an de plus que son cousin. De l'avis général, c'est une très jolie fille, laquelle, hélas pour le jeune amoureux transi, ne semble guère s'intéresser à lui. Jules s'en rend compte lorsqu'accompagnant sa jolie cousine à l'un de ses premiers bals, il la voit se laisser courtiser. Il a le cœur brisé. Mais comme tout amoureux, il espère et se désespère. Son père, déjà inquiet de le voir délaisser ses études, s'alarme pour de bon de voir son fils plongé dans une telle mélancolie. Et c'est parce qu'il connaît l'origine de ce mal qu'il décide d'envoyer Jules à Paris. La première année de droit sur les bancs de l'université parisienne se déroule sans difficulté. Mais alors que la blessure de sa déception sentimentale avec sa cousine Caroline Tronson semble s'être refermée, Jules Verne retombe amoureux fou. La jeune fille en question est une amie de Caroline Tronson. Elle s'appelle Herminie Arnaud Grossetière. Elle est d'une étourdissante beauté. Jules est subjugué. Mais en juillet 1848, il reçoit un nouveau coup de grâce. Herminie en épouse un autre. Foudrage ! Jules Verne envoie à sa mère une lettre à laquelle il ajoute un poème assassin où il accuse Herminie d'avoir cédé à la tentation de la sécurité financière en épousant un autre que lui. L'heureux élu, selon Jules Verne,
« Par ses écus sonnants a ravi cette fille à mon amour sincère. Il s'enivre souvent du blanc jus de la treille et caresse des fils dont il se croit le père. »
À 22 ans, Jules Verne est déjà un cœur brisé. Il prend sur lui de ne rien en laisser paraître dans sa correspondance, mais lui qui avait déjà tendance à sans cesse s'évader en pensée, à être absent du monde par ses rêveries, va consommer la rupture d'avec la réalité qui l'entoure. Le droit qui déjà ne l'enchantait guère se met à le dégoûter tout à fait. Qu'importe si dans les rues de Paris la révolution gronde, il s'en moque, il écrit des vers par centaines. Un amour partagé aurait pu avoir raison de ses chimères, mais à présent il se trouve seul face à ses aspirations profondes.
L'examen de droit avance. C'est pour le mois de janvier. Il est fort ennuyeux, plus assommant que difficile. Bien que les élections soient faites, il se pourrait fort bien qu'il y eût du bruit. Hier soir, d'immenses troupes d'hommes ont parcouru les boulevards avec d'horribles vociférations. Qu'arrivera-t-il ? On ne sait pas ce que cela va devenir. Quant à moi, cric, crac, je ferme ma porte et je reste chez moi à travailler, pourvu qu'on ne me tracasse pas. Qu'ils se débrouillent comme ils voudront.
Les lettres écrites à son père durant ces années parisiennes sont d'un ton étonnamment familier. Elles seraient plus celles d'un homme à un frère ou à un ami. Il en émane une tendre nonchalance. Jules Verne commence par rassurer son père sur l'application qu'il met à préparer ses examens de droit. Puis viennent les demandes d'argent. Au fil des mois, il a réussi à faire admettre à sa famille que la littérature est sa vocation. Il écrira du théâtre. Point. D'ailleurs, la fréquentation des théâtres lui offre la possibilité de rencontrer des écrivains de renom. Il a entendu Victor Hugo à l'Assemblée et écouté en tremblant d'émotion le grand Alexandre Dumas au théâtre, où ce dernier était venu présenter l'adaptation pour la scène de ses Trois Mousquetaires. Il a même rencontré Alexandre Dumas fils, à qui il a proposé la lecture d'une comédie, Kyridine. Enthousiaste, Jules écrit à son père.
« Dumas fils et Alexandre Dumas ont ri à se tordre de la lecture de Kyridine. Et, écartant toutes les impossibilités théâtrales, nous allons mettre cela en deux actes. Ils m'ont fait des compliments sincères sur l'esprit et la facture des vers. »
À l'aube de l'année 1851, Jules Verne a réussi à faire admettre à son père que sa vocation était le théâtre et qu'il n'en démordrait pas.
« Je puis faire un bon littérateur et ne serai qu'un mauvais avocat. » Ne voyant dans les choses que le côté comique et la forme artistique, et ne prenant pas la réalité sérieuse des objets.
Il a alors 23 ans. Où sont passés les rêves d'enfant qui, à Nantes, le conduisaient au-delà des horizons, à la conquête de mondes inconnus ? Il semble qu'à partir de 1851, Jules Verne se soit égaré, quelque part entre ses aspirations et celles de son père. un père qui désespère, mais continue tout de même d'envoyer régulièrement de l'argent à son fils sans broncher. En mars 1851, Jules Verne affirme tout haut sa décision d'abandonner ses études d'avocat. Son propre père ne lui a-t-il pas enseigné qu'on ne doit pas courir deux lièvres à la fois ? Le malheureux père a beau lui écrire que non, les gens comme Alexandre Dumas, si célèbres soient-ils, n'ont pas le sol, comprenez, n'ont pas un sou, rien n'y fait.
La littérature avant tout, puisque là seulement je puis réussir.
Devant tant de détermination, les parents de Jules finissent par baisser les bras. Oh, le théâtre, pourquoi pas, après tout, Jules semble si enthousiaste. Mais autre chose les tourmente. Pourquoi leur fils ne se marie-t-il pas ? À ce sujet, Jules Verne montre un certain cynisme, sans doute de façade. Mais il ne manque jamais une occasion de se moquer du mariage et de raconter les fous rires dont il est pris en assistant à telle ou telle noce. Le destin de Jules Verne est-il de devenir un auteur dramatique raté, vieux garçon de surcroît ? Eh bien, c'est ce que je vous raconterai dans la seconde partie de cet épisode consacré au destin de Jules Verne.